Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir deux intervenants qui vont nous parler d'une institution que tout le monde connaît, mais si nous sommes familiers du trou de la sécurité sociale, les enjeux politiques nous sont peut-être moins sensibles. Et donc, ce soir, c'est Madame Colette Beck, professeure de sociologie à l'Université Paris-Descartes, qui nous parlera de ce livre qu'elle a consacré à la sécurité sociale, une institution de la démocratie. Monsieur Christophe Baudouin, directeur adjoint de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale qui se trouve dans notre ville à Saint-Étienne, va nous présenter de manière plus détaillée les ouvrages de Madame Colette Beck. Alors, comme il est d'usage, je vais vous donner quelques informations sur les prochaines manifestations de l'Association de philosophie Aussitôt-dit. Vous les trouvez, bien entendu, sur notre site aussitôt-dit.net. Je vous rappelle simplement donc, que le 9 avril, la prochaine conférence aura pour invité Philippe Dujardin et André Micou au sujet de leur livre « Quel temps faisons-nous ?». Alors, cette conférence du 9 avril, je précise tout de suite qu'elle n'aura pas lieu dans cette salle Aristide Briand, mais au premier niveau de l'hôtel de ville, dans la salle 2000. Bon, ça sera indiqué, ça sera fléché, hein, comme on fait toujours. Le 23 avril, il y aura toujours l'atelier Aristote qui continue, consacré à la lecture commentée de la politique d'Aristote. Les ateliers d'Aussitôt-dit ont lieu à la Maison des Associations, rue André Malraux. Je rappelle également que sur Radio Dio, radio locale 89.5, tous les troisièmes jeudis et vendredis du mois sont rediffusées des conférences d'Aussitôt-dit des années antérieures. Soulignons également que les conférences de l'Hôtel de Ville sont organisées en partenariat par l'Association de philosophie Aussitôt-dit, la Rotonde, École des Mines et le Centre de sociologie Max Weber. Voilà, je vous laisse maintenant en compagnie de nos intervenants que je remercie d'avoir accepté notre invitation.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc il me revient un exercice difficile, c'est de présenter l'ouvrage de Colette Beck en sa présence. Alors pour commencer, je voudrais effectivement démarrer sur deux événements plus personnels. Le premier, c'est que j'éprouve effectivement une réelle fierté à présenter l'ouvrage de Colette Beck. Pour une raison déjà évidente, c'est que son ouvrage, et je venais de lui annoncer, avait été sélectionné parmi les ouvrages que le N3S présente chaque année dans le cadre d'un prix qui a été créé par Dominique Libaud, qui est directeur de l'école de l'N3S en partenariat avec France Stratégie, et qui a vocation à récompenser des ouvrages dans le champ de la protection sociale et en tous les cas qui favorisent, comme vous le disiez, la connaissance d'un système qui est assez mal connu, même si on y est tous très attachés, mais en réalité, on le connaît fort mal, à la fois dans son fonctionnement et dans son histoire. Et donc, le livre de Colette Beck avait été nominé parmi 11 ouvrages et il a raté de quelques encablures le lauréat, puisque le prix a été décerné à Pierre Jox pour son ouvrage « Soif de justice au cœur des juridictions sociales ». Voilà, donc c'était un choix. Mais en tout cas, le comité de sélection qui était présidé par Dominique Libaud et M. Pisani de France Stratégie, et puis composé de plusieurs personnalités des hauts conseils à la sécurité sociale, avait effectivement salué un ouvrage qui oblige à réfléchir sur notre protection sociale et qui arrive en point nommé puisque en 2015 nous allons fêter le 70e anniversaire de la sécurité sociale et donc on ne peut pas trouver meilleur ouvrage pour comprendre d'où l'on vient et peut-être où l'on va. Donc je vais m'efforcer très humblement de vous présenter cet ouvrage. Et le deuxième événement personnel, c'est que finalement je me suis senti ramené dans ma propre schizophrénie professionnelle. puisque avant d'être directeur adjoint de l'école, j'ai été moi-même directeur d'un organisme de sécurité sociale, et puis je vois qu'un de mes collègues est dans la salle ce soir. Et je dirais que vous, en filigrane, dans votre ouvrage, quelque part vous dénoncez une forme de dérive gestionnaire et techniciste de la sécurité sociale. Alors finalement, je me dis, bah, je suis moi-même un peu l'acteur de cette dérive, puisque j'ai été moi-même à la tête d'un organisme pour le gérer. Et je suis maintenant directeur adjoint d'une école qui forme des dirigeants et qui est aussi très axée sur les pratiques managériales qui, comme vous le dites, ont un peu envahi nos organismes et nos caisses de sécurité sociale, peut-être au détriment d'une dimension parfois plus politique. En tous les cas, elle m'a interpellé au sens où, même quand on met en œuvre des politiques publiques au service de nos assurés, de nos allocataires, eh bien, la lecture de cet ouvrage est aussi l'occasion de redonner du sens à notre action et de se dire que quand on a un assuré, quand on a un allocataire, on n'a pas devant nous un client, on a aussi un citoyen qui est en recherche de solidarité et qui recherche auprès des caisses de sécurité sociale effectivement un mécanisme de solidarité. Alors votre ouvrage, il est composé de 4 grandes parties. Effectivement, c'est une lecture intéressante de l'histoire et des fondements de notre histoire de la sécurité sociale qui permet aussi de casser certaines représentations. Vous pourrez d'ailleurs y revenir, et vous le dites en introduction, nos hommes politiques, d'ailleurs de tous bords, font souvent référence de façon un peu incantatoire au principe de 1945, mais finalement, à quel principe se réfère-t-il ? Puisque finalement, on va voir que ces principes extrêmement, finalement, assez novateurs se sont un peu dévoyés, et en tous les cas, avec peut-être même une ambiguïté originelle au départ, et que je vais tenter de, en tout cas, de vous exposer, et sur lequel vous pourrez naturellement revenir. Alors, 4 parties. Une première partie qui concerne l'affirmation du principe obligatoire. Alors quand je l'ai relu, ça m'a fait d'ailleurs penser au débat aux États-Unis lorsque Obama a essayé de mettre en place une assurance obligatoire et où finalement on s'est aperçu que les Américains n'y étaient pas si préparés que ça. Et chez nous, ce n'est pas quelque chose qui s'est imposé assez naturellement. Alors il y a un certain nombre, 3 lois sociales que vous présentez, effectivement. La première loi de 1910 sur les retraites obligatoires et paysannes, ouvrières et paysannes, les lois de 1928 et sur les assurances sociales et de 1932 sur les allocations familiales. Donc 3 lois qui vont inscrire dans le paysage de la protection sociale le caractère obligatoire, mais effectivement, vous le démontrez, ce n'est pas quelque chose qui est venu très spontanément dans une société qui effectivement était traversée par le courant mutualiste, et puis sur le débat libéral quand même, qui essayait d'imaginer des dispositifs d'autorégulation, mais qui finalement montrait les limites, et puis la notion d'assistance, qui est une sorte de chemin ou de mi-chemin entre effectivement une politique libérale qui ne parvient pas à autoréguler la solidarité et puis l'affirmation du principe obligatoire. Simplement, l'assistance aussi, comme vous le dites, essaye de faire une sorte de coexistence entre des obligations individuelles et des obligations, des obligations professionnelles. Et on sent bien qu'effectivement, même en laissant le choix aux organismes, aux affiliés d'adhérer ou non, très vite l'assistance montre ses limites, d'où l'affirmation du champ obligatoire, avec notamment l'affirmation de la puissance de l'État, puisqu'effectivement on ne peut pas non plus imaginer à cette époque l'affirmation du principe obligatoire sans l'affirmation de l'État. Donc dans cette première partie, je pense que ce sera intéressant que vous puissiez revenir sur ces articulations, sur ce principe obligatoire, sur la place de l'assistance et sur le conflit que l'on a effectivement entre ces libertés individuelles et puis le fait de rentrer dans un champ obligatoire. La deuxième partie, elle est particulièrement saisissante puisqu'elle évoque vraiment la situation de la création de la sécurité sociale en 1945. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est que je l'aurais volontiers qualifié d'émergence d'une utopie, au sens, alors utopie vraiment au sens étymologique du terme, c'est-à-dire d'un ailleurs, de quelque chose qui n'est pas simplement, et vous le démontrez, simplement une continuité. Souvent on dit, voilà, 1945, on crée la sécurité sociale, comme s'il s'agissait d'un aboutissement, d'un continuum historique, après avoir effectivement eu des politiques d'assistance, les lois sociales effectivement de 1910, 28 et 32. Et là, vous prenez un peu le contre-pied en disant, bon voilà, les historiens ont tendance à le représenter comme une forme de continuité, mais en fait il s'agit d'une rupture, mais d'une rupture au sens où on essaye d'affirmer, à travers une époque qui n'est quand même pas commune, puisqu'on est en fin de guerre, avec le passage de la résistance qui, comme vous le dites, a fait taire les différences et les divergences idéologiques, et une certaine conception de la fraternité s'est imposée au-delà des différences idéologiques entre communistes, chrétiens. Quelque part, on se retrouve autour d'un modèle de solidarité, comme on dit, la force de dépassement des problèmes. Donc c'est une époque. Et puis il y a un homme aussi, qui d'ailleurs, une des salles de l'école porte son nom, Pierre Larocque, qui a été le premier directeur de la sécurité sociale, mais qui est finalement un homme qui d'ailleurs échappe à tout parti, voilà, qui est un homme pur, de, si je puis dire, de la résistance, mais qui porte visiblement une idée très haute de ce projet de sécurité sociale, qui n'est pas simplement une ambition simplement d'assurance, mais vraiment la volonté de concevoir des rapports nouveaux, des rapports sociaux nouveaux entre l'État et la société civile, et quasiment porteur d'un projet d'une société émancipée, juste, égalitaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous démontrez qu'on a là vraiment un changement de paradigme, même avec un vrai projet, un beau projet, avec trois éléments déterminants. Le rôle déterminant du politique, et on pourra y revenir sur la place du politique qui explique peut-être aujourd'hui un certain dévoiement. Le rôle fondamental de la loi, et enfin la possibilité et la confiance d'établir des rapports pacifiés après notamment une période extrêmement mouvementée. L'élément central également de ce projet de 1945, c'est la notion de démocratie, comme on dit, sociale, qui consiste effectivement à donner aux bénéficiaires eux-mêmes la responsabilité d'une institution. Et l'idée de Pierre Larocque, c'était justement de confier la responsabilité de cette institution ou de ces caisses de sécurité sociale aux bénéficiaires eux-mêmes, avec l'idée qu'il leur confiait le sens des responsabilités. Et donc là, vous démontrez que finalement la sécurité sociale est un but et qu'elle ne se confond pas complètement avec la notion d'assurance qui est, elle, avant tout une technique, une manière de se protéger, mais qu'avec le temps, effectivement, il va y avoir une sorte de rapprochement entre sécurité sociale et assurance et un mariage qui finit par nous faire oublier le sens premier de cette sécurité sociale. Alors, ce passage de 1945, vous montrez fort bien, et c'est là où je trouve votre livre particulièrement intéressant, c'est qu'il naît avec une forme d'ambiguïté originelle, si je puis dire, et que le projet de Pierre Larocque, aussi louable soit-il, a connu des vents un peu divergents, et vous identifiez un certain nombre de facteurs qui vont faire que cette sécurité sociale, que ce projet porté par Pierre Larocque, c'est-à-dire projet d'universalité, un projet qui couvre l'ensemble de la population, on l'oublie très souvent, mais on parle de régime universel, on a parlé donc, quand on parle de la CMU, c'est-à-dire d'universalisation, il met des allocations familiales en 1978, on vient de très loin, mais à l'époque, le projet de couvrir l'ensemble de la population était bien inscrit dans le projet de Pierre Larocque, tout comme la notion d'unité, c'est-à-dire d'un seul régime susceptible de couvrir l'ensemble de la population. Et vous voyez très bien aujourd'hui, quand on parle de nos régimes spéciaux, qu'il en subsiste encore bien nombreux des régimes, et que déjà, dès 1945, on se heurte à des résistances des groupes professionnels, donc vous citez le régime agricole, les travailleurs indépendants, les cadres qui effectivement ont souhaité maintenir un régime à part, y compris sur le régime des retraites complémentaires avec, en fondant le régime AGIRC et en refusant, si je puis dire, le déplafonnement, donc en imposant le plafonnement. Donc on assiste à des résistances catégorielles, professionnelles, et puis on a aussi des alliances un peu parfois contre nature, patronat, syndicat, mutualité, notamment la CFTC, le patronat et la mutualité qui refusent le principe d'une caisse unique, alors que la CGT est plutôt sur ce type-là. Donc on n'a pas forcément un front syndical uni. pour des raisons d'ailleurs assez différentes, et je crois que ça sera intéressant que vous puissiez nous l'expliquer. Et puis, dernier élément, on en parlait en aparté tout à l'heure, c'est pas très nouveau, les résistances du corps médical, qui déjà à l'époque, en 1945, ne concevait pas de voir des tarifs d'honoraires opposables médicaux inscrits dans des conventions entre les caisses de sécurité sociale et eux-mêmes. Donc, le débat aujourd'hui sur le tiers payant et sur, si je peux dire, le salariat des médecins libéraux ne date pas d'aujourd'hui, mais trouve déjà une source, même si la charte des médecins libéraux datait de 1927. Mais en 1945, le débat ressurgit effectivement dans le cadre de cette ambiguïté-là. Donc, vous montrez à juste titre qu'il y a une véritable ambiguïté. Est-ce qu'on est sur une sécurité sociale dite universelle ou est-ce qu'elle est professionnelle ? Et donc, on ne choisit pas vraiment à cette époque-là. Et vous évoquez, dès 1945, également la question du financement. Parce que, finalement, la question de la place de la cotisation, qui paraît tellement naturelle aujourd'hui, et puis on a eu le débat depuis maintenant une vingtaine d'années, ici en France, à savoir s'il faut asseoir les ressources de la sécurité sociale sur des cotisations ou plutôt sur l'impôt. Et on voit bien la place que la CSG a pris au cours des 20 dernières années, avec est-ce que ça renvoie à des logiques assurantielles ou à des logiques de solidarité. Mais dès 1945 se pose la question du financement de la sécurité sociale, avec des syndicats plutôt pro-cotisation et un Pierre Laroque qui voudrait effectivement aligner, si je puis dire, cette logique d'universalité, d'unité, de solidarité et d'un financement, si je puis dire, qui soit en conséquence, c'est-à-dire un financement par l'impôt. Donc on a déjà, dès 1945, vous voyez, derrière cette sorte de mythe en disant « Ah, on protège nos fondements de 1945 », on avait déjà des débats que l'on retrouve en partie aujourd'hui dans les réflexions que l'on a sur cette sécurité sociale. Alors du coup, dans votre troisième partie, vous démontrez de cette ambition originelle. Petit à petit, on assiste à une forme de dérive, si je puis dire, un peu techniciste et gestionnaire. Et en clair, le primat de l'économie finit par l'emporter sur le primat du politique. Alors, il y a une sorte d'échec de la démocratie sociale. Alors là, vous y mettez effectivement un peu en partie en responsabilité les administrateurs, puisque vous citez très clairement que les administrateurs n'ont pas réussi à éduquer les ressortissants en vue de développer un sens de la responsabilité. Et puis à un moment donné, vous dites à un moment donné, et je crois que c'est même en Pierre Laroque qui, à l'occasion du 40e anniversaire, et ça je l'ai retenu, on ne fait guère de différence entre une banque ou un bureau de poste et une CAF et une caisse primaire. Donc je dirais que ça devrait nous interroger. Et c'était en 1985, puisque c'était à l'occasion des 40 ans de la sécurité sociale. Donc, premier élément, je dirais, de responsabilité dans ce dévoiement, peut-être une part de responsabilité. J'ai bien une part de responsabilité des administrateurs, puisque vous montrez à juste titre que face aux administrateurs, il y a aussi le poids de l'État, le rôle de l'État qui a concédé moins de responsabilités aux administrateurs sur la responsabilité financière des caisses et notamment des risques. Et puis, vous évoquez une situation qui mérite débat sur le statut hybride des caisses de sécurité sociale, puisque très souvent, quand vous demandez, vous travaillez à la Sécu, on vous dit « t'es fonctionnaire ». Non, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis un salarié de droit privé et on vous ouvre des yeux en vous disant c'est quoi cette bête ? Eh bien oui, les caisses de sécurité sociale ont un statut de droit privé en charge d'une mission de service public. Ce qui les rapproche, comme vous dites, à la fois des mutuelles et en même temps s'en éloigne dans leur fonctionnement et dans leur mission. Mais c'est un caractère hybride qui, selon vous, finalement, ne facilite pas forcément la clarté et ni même le positionnement, si je puis dire, politique des caisses dans ce champ de la protection sociale. Et au final, vous montrez, à la faveur aussi d'événements d'un contexte politique, hein, de guerre froide, de que la doctrine et la dynamique néolibérale retrouvent un peu de vigueur et qu'on va à nouveau assister à une primauté donc, de l'économie sur le politique. Donc face à ces évolutions, vous démontrez qu'il y a une date relativement importante, c'est 1967, qui est la première véritable réforme des ordonnances de 1945 et qui va, si je puis dire, consacrer quelque part cette dérive que vous dites gestionnaire et individualisante de la protection sociale, puisqu'on va assister à une forme de spécialisation des risques. 1967, c'est la date à laquelle sont effectivement érigées en caisse nationale la branche maladie, la branche famille, la branche retraite, création de ce que l'on appelle l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est devenue à terme, seulement en 1994, la caisse centrale des URSSAF, mais on entre dans une logique de gestion séparée des trésoreries et qui finalement consacre d'une certaine manière à nouveau, je dirais, une logique que vous dites d'équilibre financier et de logique de pure efficience comptable et qui fait que finalement, y compris dans le champ européen, la crise de la sécurité sociale devient d'abord une crise financière et appelant des réponses d'abord sur le champ de la maîtrise des dépenses et de la, si je puis dire, de l'augmentation des ressources par le biais de l'augmentation des taux de cotisation. Donc vous montrez très bien qu'à ce niveau-là, en même temps, le débat sur le financement consacre, si je puis dire, la cotisation comme un élément parfaitement légitime d'un dispositif, mais finalement 67 quelque part marque la fin d'un projet de société, ou en tout cas la sécurité sociale évolue plutôt sur une logique d'un projet économique plutôt que d'un projet société. Et puis 1980, pour vous effectivement, on assiste toujours dans ce triomphe de la gestion et de l'approche gestionnaire, doublé d'une logique de gestion du risque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos organismes de sécurité sociale, on parle beaucoup de gestion du risque, y compris lorsque risque de non-recouvrement, risque en assurance maladie, y compris risque dans le champ de la famille ou de la vieillesse. Alors, troisième et dernier temps, vous vous interrogez, si je puis dire, sur finalement... sur une logique de dire comment tout ça peut effectivement évoluer. Vous parlez effectivement d'une sorte d'institutionnalisation de la dualisation, c'est-à-dire est-ce qu'on fait le choix d'une protection sociale, si je peux dire, à statut, qui a un côté un peu catégoriel, et puis une protection sociale qui reste un peu en marge, assistentielle, qui est un peu celle des non-droits. C'est-à-dire en fait une sorte de protection sociale qui rêvait d'unité mais qui finalement est sur un modèle un peu conservateur corporatiste d'un côté avec une logique plutôt assurantielle et qui domine et qui consacre effectivement vous cotisez et vous avez des droits à des prestations et puis pour si je puis dire les gens qui sont sans statut, qui sont un peu en marge d'un système, effectivement la société et les pouvoirs publics ont décidé de créer des dispositifs compensatoires. Alors effectivement, il y a, et on pense au RMI, à la CMU, mais qui pour vous, apparemment, sont des dispositifs plutôt de compensation, plutôt que des vrais dispositifs d'inclusion dans un régime de sécurité sociale qui se dirait unique et finalement fondamentalement solidaire. Donc tout ça avec en filigrane la question de la place du marché, la place de la prévoyance, la place des complémentaires, puisqu'effectivement, on assiste à la création notamment de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie complémentaire, et vous vous interrogez sur quelle est la place de ces complémentaires qui ont une tendance à progresser dans une logique de marché et marchande, et qui finalement peuvent nous introduire aussi à terme à remettre en cause le principe de non-sélectivité, notamment à la sécurité sociale. Donc, vous réinterrogez finalement, au final, tout ce paradigme assurantiel. Effectivement, aujourd'hui, de quelle sécurité sociale on veut? Et quand vous prenez le thème de la pauvreté et l'échec de la politique de lutte contre la pauvreté, en disant, oui, bon, on s'accorde aujourd'hui à reconnaître qu'il y a eu des choses de fait, mais malheureusement, cette protection sociale est quelque part l'expression aujourd'hui d'une forme d'impuissance politique. Et vous parlez même, enfin et en conclusion, de déclassement politique, c'est-à-dire d'une sorte d'incapacité. Alors, où sont, une fois de plus, les responsabilités, mais de se dire, nous n'arrivons pas à penser cette politique de protection sociale dans une logique solidaire. Et puis, pour terminer, et ça me semble également très intéressant, c'est que vous ouvrez la question de la place du droit dans notre société. Est-ce que le droit, effectivement, a pris la place du politique? Et quel lien on fait, effectivement, entre un droit à la protection sociale et à nos droits et à la Déclaration des droits de l'homme qui pose des droits. Et je crois qu'en votre conclusion, vous marquez effectivement que si à un moment donné, on a une dissociation entre des droits sociaux et des droits de l'homme, il y a un risque de devenir complètement inopérant. Et on peut expliquer effectivement des formes de désaffiliation à notre protection sociale qui à un moment est incapable de réconcilier des droits réels et des droits formels. Et je trouvais effectivement intéressant que dans votre ouvrage, vous puissiez revenir sur cette place effectivement d'un droit à la protection sociale, d'un droit à la sécurité qui a pour partie une consécration constitutionnelle puisque le préambule de 1946 rappelle que la collectivité doit garantir des moyens d'existence et de protection à la population. Mais dans les faits, effectivement, comment peut-on finalement satisfaire des besoins alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à garantir des salaires, à garantir des pertes de salaires dans une logique assurantielle qui n'est peut-être pas forcément complètement compatible avec ce projet originel de sécurité sociale.
Merci infiniment. Je ne sais pas du tout ce qui me reste, ce que je vais pouvoir dire, parce que vraiment, votre exposé, et on ne peut plus complet. Non, mais très sincèrement, je ne vous dis pas ça pour... je remercie Denis Barrault et son association de cette invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir pour venir débattre avec vous de cette question qui, je pense, est une question essentielle pour notre société. Alors, comme l'a dit Christophe, bon, je vais faire quand même quelques remarques introductives, mais je vais quand même essayer de rentrer... je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de cette question, mais je fais quand même le pari que, à part les gens qui travaillent à la Sécu, vous avez tous une connaissance au moins médiatique de la Sécu à travers les présentations des fameux trous, du fameux trou de la sécurité sociale. Je crois que même quand on ne connaît rien à cette question, on est depuis plusieurs décennies, hein, ce n'est pas d'hier, vraiment amené à réfléchir, ce n'est pas sûr, mais en tout cas à penser cette question dans les termes du trou de la sécurité sociale. La sécurité sociale, malheureusement, me semble-t-il, a été identifiée depuis plusieurs décennies presque exclusivement à une controverse sur son financement et sur son équilibre budgétaire. Et d'ailleurs, je vous renvoie à quelque chose que j'ai mal vécu en novembre 2014, qui est tout récent, c'est le débat sur le projet de loi de financement de la Sécu à l'Assemblée, qui, je crois, a porté à son paroxysme cette logique strictement comptable et de dépenses et de recettes, d'équilibre recherché et jamais trouvé. Et il y a eu d'ailleurs un moment qui était, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, c'est quand notre secrétaire d'État au budget, vous savez qu'il devait trouver 9,6 milliards d'économies sur la protection sociale et qu'il n'arrivait pas à les trouver. Et il y a eu un moment à l'Assemblée qui a été assez pathétique, où on refaisait les calculs sans arrêt. Bon, je crois que moi personnellement, et je pense que je ne suis pas la seule, j'attendais du vote de cette loi qu'il soit peut-être l'occasion d'un débat de fond sur le bien fondé d'une politique de protection dans notre société ouverte, mondialisée, etc., d'adaptation de notre système de protection à une situation tout à fait nouvelle par rapport évidemment à celle de 1945. Et force est de constater qu'il n'en a rien été et que au sein même de ce lieu de la représentation nationale, dans le lieu supposé, de l'orientation et de la décision politique. Alors, avant de rentrer vraiment dans l'exposé lui-même, je voudrais faire deux remarques pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, parce que sur le raisonnement gestionnaire, j'ai bien entendu. Quel a été l'objectif de ce travail ? Bon. Moi, j'ai essayé, si vous voulez, mon objectif, c'était justement de me dégager de ce discours comptable, etc., et d'essayer de mettre au jour, la généalogie des principes d'une institution à laquelle, je crois, nous portons, vous l'avez bien compris, un regard un peu myope, au sens où le discours sur le trou financier a pris le dessus. Et c'est ça le problème pour moi, le déséquilibre entre les deux, a pris le dessus sur toute autre considération. Et les politiques de droite et de gauche confondues, malheureusement, se sont senties contraintes de prendre des mesures d'urgence, réactives et ne réglant absolument jamais les problèmes. Et chose qui, moi, me gêne le plus, c'est que ce sont des mesures et des débats qui relèguent, voire qui interdisent tout autre type d'interrogation. C'est-à-dire que c'est très difficile à l'heure actuelle d'essayer de s'interroger sur la sécurité sociale autrement qu'en termes comptables. Voilà. Donc, peu à peu, ce qui m'a paru regrettable, c'est que le projet politique qu'incarnait la sécurité sociale a été submergé par une avalanche de discours, de constructions technico-économiques qui ont fini par enterrer, par ensevelir la doctrine initiale. Alors, je ne suis absolument pas dans la posture de rétablir une vérité, absolument pas, contre des discours qui seraient erronés ou faux. Je ne fais pas le procès de l'économie, de la comptabilité, ni de la gestion. Parce que j'ai eu un débat avec Dominique Thibault, il m'a dit, mais moi, à l'école, bon, c'est une provocation, mais j'apprends aux étudiants à bien gérer les institutions, heureusement. Enfin, je veux dire, ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Moi, ce que j'ai essayé de faire, si vous voulez, c'est en fait d'éclairer la situation actuelle. Comment on en est arrivé à une situation qui, à l'heure actuelle, est ubuesque. Personne ne maîtrise à l'heure actuelle le problème de la sécurité sociale. Comment on en est arrivé à cette situation? Comment, peu à peu, on s'est détaché d'une doctrine qui, malgré tout, et vous l'avez très bien rappelé, reste dans le discours politique une référence. Voilà, ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que ce travail sur la sécurité sociale, c'est en fait le deuxième volet d'une réflexion que j'ai amorcée auparavant dans un ouvrage précédent qui porte particulièrement sur le droit social et qui s'intitule « De l'état social à l'état des droits de l'homme, point d'interrogation ». Et qui est un ouvrage qui porte sur les transformations du droit du travail. Ce que nous appelons l'état social en France, que certains appellent l'état-providence, en fait a deux grands piliers, qui est le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, qui pour moi sont en fait deux entrées, ayant exactement le même objectif, c'est en fait l'émancipation des individus par leur protection, que ça soit dans le monde du travail ou hors du monde du travail. Donc voilà, ce livre sur la sécurité sociale est le deuxième complément, enfin est le complément, pardon, de ce précédent livre. Alors, pour aller droit dans mon hypothèse, pour que vous sachiez un petit peu comment je me situe, mon hypothèse, c'est que la crise que nous traversons à l'heure actuelle, mais qui date d'il y a 4 ou 5 décennies, c'est une crise de légitimité politique. Notre système de protection, en fait, me semble-t-il, connaît depuis 4 décennies à peu près un décentrement politique, et vous l'avez noté, et je crois que c'est essentiel, qui fait de lui plus un adjuvant qu'une institution perçue comme centrale, comme indispensable à la démocratie. Je crois que ça. Donc, pour moi, une large part des problèmes actuels, et j'essayerai de le montrer, ne prennent pas leurs racines dans la crise économique des années 70 ou dans les transformations démographiques qui l'accompagnent et qui sont si souvent invoquées. Je ne minimise absolument pas leur importance. Mais je pense que la genèse des problèmes est plus ancienne, et Christophe l'a bien noté, elle est vraiment de nature politique, c'est vraiment cette ambiguïté de 45, enfin de la façon dont s'instaure cette politique, qui fut révélée et amplifiée par la crise économique et les transformations démographiques, et qui ont, à ce moment-là, me semble-t-il, dès les années 70, éclairer l'impuissance politique à adapter cette institution de protection aux nouvelles données dans lesquelles nous sommes. Voilà. Donc, je le répète, ce n'est pas une histoire de la sécurité sociale, et je pense que vous connaissez mieux l'histoire de la sécurité sociale que moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, c'est de retrouver la généalogie des principes et du socle doctrinal sur lequel reposait ce projet de sécurité sociale. Alors, je vous propose trois repères chronologiques. J'ai jusqu'à quelle heure, Christophe ?
Ah, c'est...
Denis, d'accord, très bien. Alors, le premier moment, ce sera la Troisième République, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle. Et je dois tout de suite dire pourquoi j'ai choisi cette période, ce qui était la même période d'ailleurs dans le livre précédent. Pourquoi ? Parce que, en fait, le paupérisme, c'est-à-dire ce que l'on a appelé au XIXe siècle la question sociale, à savoir la situation de misère extrême, d'exploitation extrême du monde ouvrier, ne date pas de la fin du XIXe siècle. Je veux dire, dès 1830, en France, de grandes enquêtes sociales que vous devez connaître, Villermé ou Buret, ont montré vraiment la situation faite au monde ouvrier à ce moment-là. Alors, pourquoi choisir comme ça la fin du XIXe siècle ? Eh bien, parce qu'il me semble que la caractéristique de cette période, c'est ce que j'ai appelé la fin du rêve libéral ou la crise du libéralisme, justement que traduit la question sociale qui est vieille depuis déjà un siècle. Cette persistance de la question sociale avec les problèmes qui lui sont liés, à savoir les violences, la délinquance et surtout les secousses révolutionnaires. Le XIXe siècle, c'est vraiment un siècle qui est scandé par les révoltes et les secousses révolutionnaires. Eh bien, qu'est-ce qu'elles expriment ? Ça exprime, me semble-t-il, des promesses non tenues, et qui d'ailleurs, je pense, ne pouvaient pas l'être. C'était quoi ces promesses non tenues ? Eh bien, c'était l'égale liberté pour tous les citoyens. La question sociale nous montre que, en fait, pour les trois quarts de la population française, à savoir le monde du travail, eh bien, cette liberté est un mot vide de sens. C'est une sorte d'illusion. Le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 qui dit « Tous les hommes naissent libres et égaux », bien non, nous ne naissons pas libres et égaux. Et il y a une citation de Jaurès en 93, d'ailleurs au moment du vote d'une première loi d'assistance, qui est très belle parce qu'elle est très synthétique et elle montre bien, elle met bien l'accent, me semble-t-il, sur l'essentiel. Jaurès dit « Au moment même où le salarié est souverain dans l'ordre politique, il est, dans l'ordre économique, réduit à une sorte de servage. » C'est ça. J'allais dire l'essentiel de la Troisième République, c'est de reconnaître enfin le hiatus qu'il y a entre le fait que les individus soient proclamés citoyens et que donc ils aient une parcelle du pouvoir politique par le suffrage universel et que dans la vie concrète courante, ils soient en fait des esclaves. Ce hiatus entre cette autonomie reconnue aux citoyens. Donc, si vous voulez, ce pourquoi j'ai choisi cette fin du XIXe siècle, c'est parce que c'est le moment où on reconnaît enfin, parce que c'était connu avant, qu'il ne peut y avoir de liberté sans un minimum de protection et de sécurité, et qu'il ne peut pas y avoir d'égalité sans un minimum de solidarité. Et c'est à ce moment-là que s'ébauche une conception politique de la protection individuelle. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis une conception politique de la protection individuelle ? Je veux dire que c'est une conception de la protection qui ne peut pas être séparée d'un projet collectif articulant tous les secteurs de la vie en commun. C'est-à-dire que c'est une conception qui ne peut pas se concevoir indépendamment du tout social. Et c'est à ce titre-là qu'on l'a qualifiée de conception solidaire. Alors, très rapidement, deux mots sur cette notion de solidarité qui fait florès à la fin du XIXe siècle. Il y a tous les secteurs, sciences sociales, politiques, etc. Tout le monde parle de la solidarité. Alors, très, très schématiquement, évidemment, je crois que ce que l'on peut dire, c'est quoi ? C'est qu'à l'époque, il y avait deux grands blocs philosophiques disponibles. C'était d'un côté le marxisme et de l'autre le libéralisme. Bien. Et que la solidarité, avec sa traduction politique que l'on a appelée le solidarisme, c'est quoi ? C'est la recherche d'une sorte de troisième voie, mais pas à la Blair, hein, bien différente encore, qui va permettre de penser une société où l'interdépendance sociale entre les individus, que nous le voulions ou pas, que ça nous gêne ou pas, nous sommes interdépendants, et bien que cette interdépendance des uns envers les autres soit construite juridiquement et politiquement afin qu'elle ne produise pas de la dépendance ou de la soumission. L'interdépendance, eh bien, c'était ce que laissait faire le libéralisme au 19e. L'interdépendance au 19e siècle a donné la loi du plus fort, je veux dire. Le libéralisme, que l'on pourrait très, très schématiquement dire, qui repose sur l'idée d'un homme autosuffisant et autorégulé, a donné la loi, la jungle, la loi du plus fort. Léon Bourgeois, auquel on attribue en général cette théorie, dit du solidarisme, c'est la théorie d'ensemble des droits et des devoirs de l'homme dans la société. Donc on voit bien comment on passe à ce moment-là d'une conception de la société en termes d'addition d'individus, d'agrégats d'individus qui n'ont pas grand-chose à voir les uns envers les autres, à une société d'interdépendance, hein, perçue vraiment comme une chaîne d'interdépendance. Et donc, c'est à ce moment... Oui, je voulais vous lire avant de parler, d'arriver à la question de l'État, que vous avez bien fait de souligner, évidemment. Je voulais vous lire une citation de Georges Burdeau, qui était un politiste, qui, après la Seconde Guerre mondiale, a eu une phrase que je trouve elle aussi très parlante. Il a dit « La liberté nue est une dignité socialement impuissante. Elle n'offre à la majorité que le chemin de la servitude. » Voilà, je crois que c'est vraiment une phrase qui résume parfaitement. Donc, à partir de là, l'État va commencer à s'attribuer de nouvelles fonctions, s'opposant fondamentalement à l'idée d'un ordre spontané, hein, résultant de l'action de la main invisible, etc. Et c'est la naissance des politiques sociales. Jules Ferry, vous savez, qui est le fondateur de notre école, a eu une phrase là aussi extrêmement éclairante. Il a dit « Ce n'est pas à l'État de régler la question sociale, mais c'est à l'État de mettre en place les conditions du règlement de la question sociale. » Et je crois que tout va découler de là. Donc il va y avoir des politiques sociales par lesquelles l'État vise à organiser politiquement une communauté de citoyens libres et émancipés. Je crois que c'est vraiment ça l'objectif à partir de ce moment-là. Alors évidemment, parmi les grandes lois, les lois de Jules Ferry, les lois scolaires, sont en général, et me semble-t-il c'est légitime, citées en premier, parce que l'école, évidemment, est donnée comme l'institution d'éducation à la citoyenneté. Et en paraphrasant Simone de Beauvoir, je dirais, on ne naît pas citoyen, on le devient. Je crois que c'est bon. Et puis viennent ensuite, et là encore, vous avez eu, je pense, raison de souligner l'atypie, enfin, en tout cas, l'interrogation que pose l'investissement politique des Républicains dans le vote de trois grandes lois d'assistance, à savoir en 1993 l'assistance médicale gratuite, qui a eu une longévité extraordinaire puisqu'elle va être remplacée, elle va vivre jusqu'en janvier 2000, et c'est la CMU qui va la remplacer. Donc je veux dire, c'est vraiment une loi qui... La deuxième loi, c'est en 1904 une loi qui porte sur le service des enfants assistés. Chaque département devait posséder de quoi ouvrir, enfin, de quoi faire fonctionner un foyer pour recueillir les enfants abandonnés. Et enfin, en 1905, la loi d'assistance aux vieillards infirmes et incurables qui prévoit une petite pension pour des gens d'un certain âge qui ne peuvent plus travailler. Alors, l'interrogation qu'a posée, qui moi m'a passionnée dans les livres précédents que j'ai écrits sur l'assistance, ça a été vraiment le fil conducteur de mon interrogation. Comment comprendre qu'à un moment où le mouvement ouvrier devient un acteur incontournable, hein, où il se structure, où il réclame une redistribution des richesses, un contexte où le socialisme prend de l'ampleur, comment comprendre cet investissement politique des Républicains dans une politique d'assistance qui paraît alors quand même très en retrait, hein, par rapport aux problèmes, je veux dire. Hein. Dans certaines comparaisons internationales d'ailleurs, souvent il est fait retard à cause de ça, du retard français. Alors moi je pense que pas du tout, il n'y a pas de retard français, il y a une spécificité qui est la question de l'obligation et de l'État. N'oublions pas qu'on est dans une société relativement anti-étatiste, au niveau syndical, au niveau... Bon, vraiment, c'est... Et je crois que si les Républicains ont investi le domaine de l'assistance, certes, il y avait deux raisons, mais qui, à mon avis, n'étaient pas essentielles. C'était d'abord d'essayer de marginaliser l'Église catholique avec ses œuvres charitables. Bon, c'est vrai, mais je pense que ce n'était pas essentiel. Et puis la deuxième raison qui est souvent donnée, c'est que le vagabondage et la mendicité, qui était encore un crime, vous le savez, prenaient de l'importance, et que donc il fallait instaurer une politique d'aide pour faire le tri, hein, dans les vagabonds et les mendiants. Mais je pense qu'il y a une raison qui, selon moi, est plus fondamentale, qui est d'ordre philosophique, qui est la question de l'obligation. Parce que dans une société relativement anti-étatiste comme ça, je veux dire, de la part de l'État, obliger les gens à s'assurer, etc., on verra que c'est vraiment la croix et la bannière. Et l'hypothèse que je fais, c'est que le passage par la politique d'assistance est une façon pour l'État, puisqu'il ne s'oblige que tout seul, hein, une façon d'avancer dans cette question de l'obligation. Pourquoi ? Parce que l'obligation, c'est un acte politique extraordinaire. C'est l'État, hein, qui traduit à travers l'acte d'obligation, c'est un acte souverain qui est un acte de dépossession momentanée, hein, mais en vue d'une véritable réappropriation. C'est un acte de souveraineté politique et qui va, on le verra avec les lois d'assurance qui vont suivre par la suite, et qui, dans la politique d'assistance, va être quasi expérimentale. Pourquoi ? Parce que l'assistance est posée comme une tentative pour articuler la responsabilité individuelle de quelqu'un et la responsabilité collective de la société. Pourquoi ? Parce que si vous reprenez les trois lois d'assistance que je viens d'évoquer, vous verrez que ces trois lois d'assistance s'adressent à des individus qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, malades, enfants, vieillards, donc pour des raisons de maladie ou d'âge, ne peuvent pas travailler. Donc c'est vraiment un terrain quasi expérimental pour articuler une part de responsabilité individuelle et collective. Mais on pourra en reparler dans le débat si ça vous intéresse. Et enfin, ces lois d'assistance sont suivies par des lois d'assurance. Trois lois. L'assurance a toujours semblé posséder ce que l'assistance n'avait pas. Quand la première, c'est-à-dire l'assistance, cumule les défauts et les effets pervers, l'assurance est au contraire parée de toutes les vertus. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Mais la première loi d'assurance, c'est la loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, qui a pour fonction explicite de réduire l'insécurité du monde ouvrier et de lui, j'allais dire, éviter de basculer dans l'assistance au moment de l'arrêt du travail. Et ce qui est intéressant, et je le souligne dès maintenant, puisqu'on vient de parler de l'assistance, c'est qu'il y avait dans la loi un article qui prévoyait l'interdiction de cumuler la pension de la loi et une aide assistentielle. Mais vu la modicité des pensions, très très vite, on a cumulé les deux. Idem pour la deuxième loi, grande loi d'assurance sociale de 1928-30, qui elle aussi a pour objectif de protéger les catégories les plus vulnérables de la population. Eh bien, ce qui est intéressant de noter dès maintenant, c'est que, et on ne le sait pas assez ça, c'est qu'il y avait un article qui interdisait le cumul des deux. Et très très vite, vu la modicité là encore des allocations, on a dû faire bénéficier les assurés de la MEG, par exemple, pour payer le ticket modérateur qui a été créé par cette loi de 1928. Et on a créé à ce moment-là, c'est intéressant, ça, une catégorie d'assurés notoirement indigents, qui étaient en fait ces assurés qui travaillaient, qui cotisaient, mais qui en même temps percevaient de l'assistance. Bon, enfin, alors, je voudrais terminer cette période de la Troisième République en soulignant quand même d'un mot. Bon, je n'ai jamais pensé que la Troisième République, c'était le paradis sur Terre. N'oublions pas que c'était quand même la période de colonisation, etc. Donc, mais quelque chose qui m'a toujours fascinée sous la Troisième République, et peut-être parce que nous l'avons perdu, nous, depuis longtemps, c'est qu'il y avait une clarté, on avait au niveau politique une certaine conception relativement claire de la société que l'on appelait de nos voeux. Et il y avait des tentatives, plus ou moins réussies, mais des tentatives, de mettre en place des politiques sociales qui toutes avaient le même objectif, c'était libérer l'individu, l'émanciper. Et je donnerai à la suite des lois que l'on vient de voir, l'impôt sur le revenu, quand même, je veux dire, en 1918, c'est pas mal. Ensuite, le syndicalisme en 1984, qui, selon moi, s'inscrit exactement dans la même stratégie, c'est-à-dire, en fait, agir sur les déséquilibres de pouvoir des situations. Et donc, on voit bien comment, et on pourrait en citer d'autres, on voit bien comment il y a une certaine cohérence politique qui fait que j'ai parlé à ce moment-là d'une solidarité d'appartenance. C'est-à-dire que toutes ces lois, toutes ces grandes politiques sociales, à des degrés divers, éduquer, redistribuer, aider, exprime, me semble-t-il, une forme de solidarité qui vise vraiment à articuler, à concilier l'indépendance individuelle et la cohérence collective, à articuler une part de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. Voilà pourquoi la Troisième République, avec tous les bémols que l'on peut apporter, m'a paru effectivement être un bon point de départ pour commencer à réfléchir à cette ébauche d'une conception politique de la protection individuelle. Alors la deuxième période, qui est évidemment certainement quand même la plus intéressante et la plus riche, c'est la libération. Alors, je voudrais commencer par une remarque, je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi je l'ai découvert en faisant ce travail de recherche, et qui m'a paru important, c'est la différence d'avec 1918. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a une sorte d'accord dans les familles politiques et dans la société civile, c'est le vœu, vraiment le désir de revenir à ce que l'on appelait une situation normale. C'était quoi cette situation normale? C'était la situation d'avant 14. En 1945, pas du tout. On n'avait surtout pas envie de revenir à la normale. Alors, il est vrai qu'un demi-siècle, je ne sais pas si vous avez réfléchi un jour à ça, nos parents et grands-parents ont vécu ça, en un demi-siècle, il y a des gens qui ont vécu sous deux guerres mondiales et sous une crise économique internationale, celle de 1929, qui a été terrible. Comment en un demi-siècle, donc qu'est-ce que ça veut dire revenir à la normale? Évidemment pas. Bon. Donc on comprend, si vous voulez, alors, et ça, qu'il n'y ait pas eu ce désir, comme en 1918, de revenir à l'avant 40, parce que vraiment, bon. Alors, et là, et la conséquence a été quelque chose de tout à fait spécifique, rapide, mais extrêmement important au niveau politique, c'est qu'il y a eu un consensus, c'est tellement rare, hein, qui a duré peu de temps, mais qui a été suffisamment fort pour déclencher une dynamique entre les quatre grandes familles politiques de l'époque, à savoir le MRP, hein, les démocrates chrétiens, les gaullistes, les socialistes et les communistes. Et ce consensus a porté sur, comme les contemporains le disaient, hein, c'est pas de moi, la victoire de l'idée socialiste. Alors, pas de quiproquo, c'est pas l'idée d'un parti qui aurait porté ce nom, c'est pas l'idée de la SFIO par exemple, non. C'était une idée qui transcendait les partis politiques de l'époque, les familles politiques. Et alors, pour le résumer, je dirais que c'était, mais vraiment, l'idée qu'il fallait, le vœu, enfin le désir profond, le projet, qu'il fallait organiser, et les termes sont importants, rationnellement, une société juste et solidaire dans laquelle prendrait place une véritable politique de protection sociale. C'est-à-dire capable de créer, d'organiser une société en fonction de deux grandes valeurs quand même qui sont à la base de notre démocratie, à savoir liberté, égalité, c'est-à-dire une société émancipée et juste. Et donc, je crois que là, c'est quelque chose que l'on n'a pas suffisamment en tête, c'est ce moment où il y a un consensus dans un éventail vraiment de familles politiques qui, au départ, n'ont pas grand-chose à voir entre elles, mais qui ont le même objectif, c'est cette émancipation et cette liberté. Et donc, là encore, on va voir, et vous l'avez signalé quand vous avez dit que le pouvoir va être donné aux politiques. Et je vous lis une citation de Georges Vedel. Georges Vedel était un constitutionnaliste qui a participé à la rédaction de notre fameuse constitution de 1946, qui dit « L'État, aux mains des adversaires, était une Bastille. Aujourd'hui, aux mains des démocrates, il est un poste de commandement. » Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'État n'est plus perçu comme un ennemi de la liberté, mais vraiment comme un allié de la liberté. C'est-à-dire que la liberté ne va plus pouvoir se faire sans lui, en dehors de lui. Je crois que c'est vraiment l'élément central de 1945. Alors, c'est dans ce contexte-là que la sécurité sociale est pensée. On ne peut rien comprendre, me semble-t-il, à la sécurité sociale si on ne la recontextualise pas dans ce moment fondateur extrêmement riche, extrêmement novateur qu'a été 1945. Elle a été pensée comme une pièce centrale, comme un rouage de ce nouveau cours démocratique. Elle a été pensée comme une institution qui doit participer à l'émancipation des individus et contribuer à les faire membres de la société. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis comme sous-titre à mon livre « Une institution de la démocratie ». C'est ce que je voulais signaler. Je voulais signaler qu'en fait, elle avait été pensée comme consubstantielle à la démocratie. Donc, la grande différence avec les lois précitées, c'est que les lois d'assurance sociale 1928, etc., qui étaient déjà un pas en avant extraordinaire dans la protection des catégories les plus vulnérables, mais en 1945, le projet, ce n'est pas celui-là. Le projet, c'est de protéger l'ensemble de la société. Je vous rappelle que la notion de sécurité sociale veut dire sécurité dans la société et que le texte de référence de l'époque, c'est le texte de 1944 du Conseil national de la Résistance, qui dit un plan complet appelé de sécurité sociale pour l'ensemble de la société. Bon, on va voir comment c'est là qu'il y a les problèmes, justement. Bon. Donc, en fait, la sécurité sociale est pensée comme ayant pour objectif de solidariser la société. Alors, elle devait être, et là je reprends Larocque, dont vous avez dit tout le bien que j'en pensais, évidemment, et on pourra en reparler peut-être dans le débat, ce haut fonctionnaire qui avait un sens de l'État et de l'intérêt général qui est assez fascinant, et qui situait le projet de sécurité sociale au carrefour de trois politiques: une politique économique portée par la recherche du plein emploi, une politique d'équipement sanitaire, d'organisation médicale, etc. Et enfin, quelque chose que l'on dit moins souvent, et pourtant c'était à mon avis l'élément le plus novateur et le plus volontariste, elle devait participer, cette sécurité sociale, à une politique de redistribution. Elle devait être une institution de lutte contre les inégalités. Et je cite Larocque, elle devait tendre à modifier la répartition qui résulte du jeu aveugle des mécanismes économiques. Voilà vraiment la configuration de 45. Alors, avant de parler des problèmes, je vais donner les résultats très très rapides, qui sont des résultats spectaculaires. La sécurité sociale a transformé la société française. Je crois qu'on ne le souligne pas assez, et ça a été très très rapide. Les progrès, si vous voulez, on peut les situer sur tous les secteurs. Alors, la démographie, qui était un souci politique permanent depuis la fin du XVIIIe siècle, hein, eh bien, en quelques années, il va y avoir un bond démographique spectaculaire. Entre 1900 et 1945, la population française avait stagné, entre 39 et 40 millions, et 50 ans après, elle est à 55 millions. Si on prend l'espérance de vie, là c'est encore plus visible, à la fin du 19e siècle, on vivait en moyenne, avec toutes les inégalités que cela suppose, 45 ans. Et en 1960, la moyenne est passée à 70 ans. Bon. Pour la mortalité infantile, en 1945, au moment où est créée la sécurité sociale, on était à 108 décès pour 1000 naissances. Et 9 ans après, en 1954, on est à 37 décès pour 1000 naissances. Bon, je veux dire, les chiffres sont vraiment... Bon, et sur le plan de la santé, je veux dire, les résultats sont spectaculaires. C'est quand même la sécurité sociale qui a permis que la population ait accès au progrès majeur de la recherche médicale. Et je pense tout particulièrement aux antibiotiques, qui, vous le savez, a révolutionné sous les 30 glorieuses. Bon. Et elle a permis aussi le financement des équipements médicaux, etc. Donc, je crois que ce que l'on peut dire, c'est que la sécurité sociale a été un élément mais majeur dans la lutte contre ce qui, je crois, minait la société française d'avant 45. C'était un sentiment d'insécurité du lendemain. Je crois que, surtout dans la population évidemment qui vivait de sa force de travail, le lendemain était vraiment une source d'insécurité totale. La sécurité sociale a fait chuter ce sentiment d'insécurité, mais d'une façon spectaculaire et très rapidement. Voilà. Donc ça, je crois qu'il faut le dire, le redire. Moi, je dis souvent à mes étudiants, essayez de vous lever un matin en vous disant « la sécurité sociale n'existe plus ». Je pense que vous aurez des angoisses pendant toute la journée. Mais, voilà, et alors c'est là où on arrive au problème, c'est que dans le même temps, cette politique s'instaure sur une ambiguïté fondatrice que je vais expliquer, et vont se développer à partir de là des équivoques extraordinaires. Alors, cette ambiguïté fondatrice, elle repose sur quoi ? Eh bien, vous comprenez bien que ce projet de solidariser la société française par la participation de la sécurité sociale, pas seulement, il y avait le droit du travail, etc., eh bien, posait quelques conditions. Et parmi ces conditions, celle qui a fait le plus de bruit, c'était évidemment la caisse unique. C'est-à-dire que vous soyez ouvrier, patron, enseignants, médecins, vous deviez cotiser à la caisse unique. Alors là, ça a été une levée de boucliers, de corporatisme terrible que l'on avait connu en 1928. Moi, je travaillais sur la loi de 1928. Tous les corporatismes que l'on voit en 1945, ils se lèvent déjà en 1928, hein, à peu près, sur d'autres bases, pas tous, mais comme ça. Alors, et on va assister à la contestation de groupes, donc, qui, alors, si vous voulez, aussi différents soient ces groupes, ils ont en fait la même argumentation, c'est préserver les acquis, les avantages acquis, et préserver une identité professionnelle. Alors, parmi ces groupes, il y en a beaucoup. Je vais commencer par le mien, comme ça, les enseignants. Moi, je ne suis pas à la Sécu, je suis à la MGEN. Les cadres, tout le monde connaît l'histoire des cadres contre, entre autres, l'intégration des personnes âgées dans la Sécurité sociale. Les cheminots, qui avaient eu leur heure de gloire sous le Second Empire et qui donc... Bon, les paysans, qui vont refuser, après 28, ils vont refuser 45 et ils auront leur MSA... en 62, bon, etc. Et je dois d'ailleurs dire que les mineurs, par exemple, qui appartenaient à la CGT, menacent de quitter la CGT si on les oblige à rentrer dans la caisse unique. Oui, oui. Alors que la CGT, au niveau de la Confédération, était pour la caisse unique. Ah oui, oui, non, mais là, c'est des... Bon. Donc, il y a... Et ça a été très, très, très violent. Et le pouvoir politique a baissé les bras tout de suite. Hein. On l'a laissé. Bon. Dès 48, si vous voulez, on permet, c'est fini. Toute la multiplication des caisses professionnelles est ouverte. Et je voudrais faire, effectivement, comme l'a dit Christophe, le moment est opportun, faire une place un peu à part aux médecins, parce que très très tôt, ils vont se développer une stratégie de lutte contre la sécurité sociale, refusant le conventionnement, etc. Et ils avaient été, en 1928, un grand corps d'opposition à la loi de 1928. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une lettre que le syndicat médical de Cambrai a envoyée au directeur de la caisse de sécu de Cambrai, dans laquelle il est dit « Nous prenons acte que la sécurité sociale, véritable État dans l'État, s'arroge des droits illégaux contre lesquels différentes plaintes ont été déposées, dilapidation de fonds publics, exportation frauduleuse de capitaux, qu'en un mot, qu'au lieu de travailler au bien de tous, elle mène une politique d'égoïsme et d'asservissement. Nous considérons donc, dans ces conditions, que le corps médical se doit d'adresser à la sécurité sociale un solennel avertissement qui n'est pas une menace, mais une prévision logique de ce qui peut arriver. Nous serons obligés de ne plus soigner les familles de tous ceux, administrateurs, directeurs, chefs de service et employés de la Sécu, qui, par leur attitude, détruisent l'élément de confiance indispensable à l'exercice de notre profession. Voilà, 1950 ou 51. Voilà. Tous les médecins n'étaient pas comme ça et ne sont pas comme ça. Faire le répondre. Puis je voudrais mettre l'accent sur le retour du patronat. Une partie du patronat, c'est très connu, ça a été collabo pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc en 1945, c'est sûr qu'ils n'étaient pas invités aux festivités et ils n'ont pas pris part à la rédaction de l'ordonnance de 1945, évidemment. Mais ils sont revenus très très vite dans le débat public. Dès 1946-1947, je crois d'ailleurs qu'ils fondent le CNPF fin 1946, début 1947. Et très, très vite, ils mettent au point une stratégie par rapport à la sécurité sociale qui, je crois, est toujours leur stratégie. Il y a une sorte de fidélité de la part du patronat, cette stratégie que je vais résumer. Si vous voulez, le patronat, en 1928, il s'était opposé aux assurances sociales. Avec un discours libéral moralisateur, on ne peut pas imposer à quelqu'un qui n'est pas prêt de se protéger. Quand on impose aux gens et quand ils ne sont pas prêts, on aboutit toujours au résultat inverse, etc. Bon. Et la loi avait quand même été votée. Donc en 1945, ils ne recommencent pas la même erreur, mais ils vont mettre en place une stratégie qui est, et j'ai trouvé un texte de 1951 qui est vraiment, on ne peut plus explicite, c'est « ok ». On veut bien cotiser pour nos ouvriers sur des risques professionnels, etc. Mais il faut débarrasser ce projet de sécurité sociale d'une série d'inepties. Le terme est dans le texte. Hein. C'est quoi cette ineptie ? Eh bien, c'est la solidarité. Nous, on est pour des assurances sociales. Hein, on est vraiment... bon. Et donc, on va bien cotiser. Et jusqu'à aujourd'hui, et je crains malheureusement que ça soit une tendance qui soit en train de gagner, c'est-à-dire de revenir à une conception assurantielle de la protection, le reste, l'État, l'assistance, etc. C'est la fameuse dualisation dont je parlais. Et d'ailleurs, ils se battront, et c'est là où ils rencontreront de façon effectivement un peu contre nature les syndicats, quasiment tous, sur la question des charges indues, dont je dirai peut-être un mot tout à l'heure. Donc, en fait, de quoi s'agit-il ? Je vais vite parce que je vois qu'il me... En fait, ce qui, en 1945, se dessine, c'est un conflit de conception de la protection. On peut résumer tout ce que je viens de dire, me semble-t-il, à un conflit entre deux conceptions de la protection. Une conception qui fait référence à la résistance, au texte du CNR et des concepteurs et des fondateurs de la Sécu, à savoir une protection basée sur une solidarité nationale et qui vise tous les citoyens. Une société, ce n'est pas que des travailleurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, il y a des vieux, il y a des... etc. Et puis, une autre conception que je qualifie de conception professionnelle catégorielle, reposant sur une solidarité professionnelle et catégorielle à base assurantielle. Je crois qu'il est là le vrai problème de la Sécu en 45, le cœur des problèmes que nous nous traînons jusqu'à aujourd'hui me paraît être là. Il n'y aura pas de choix politique fait en 45. Qu'est-ce que je veux dire ? Eh bien, je veux dire qu'on ne va pas universaliser comme c'était prévu, mais on va étendre la protection à l'ensemble de la société. Quand Giscard arrive au pouvoir en 74, je crois qu'il y a 90% de la population française qui est protégée, ce qui est énorme. Bon. Mais comment ? Et c'est ça la vraie question. C'est que les pouvoirs politiques ont contourné les résistances. Il n'y a jamais eu de débat démocratique sur le choix de tel ou tel. C'est-à-dire, en fait, le choix, c'était est-ce que la protection, c'est un droit de l'homme ou est-ce que la protection, c'est un droit du travailleur ? Je crois que c'est vraiment ça la question qui est reposée à l'heure actuelle. Il n'y a pas eu de choix. Les pouvoirs politiques ont contourné toutes les résistances et ils ont étendu la protection par des mécanismes comptables terribles en imposant des transferts d'une caisse à l'autre, par exemple les CAF. On sait que vous avez alimenté souvent le régime déficitaire de la maladie, etc. etc. On a donné de l'argent au MSA, enfin bon. Et en faisant un appel extraordinaire à l'assistance, tout en critiquant l'assistance, évidemment, etc. Donc, on a étendu la protection subrepticement. Et peu à peu, donc, alors tant que c'était jusque dans les années 60, ça allait à peu près parce qu'il y avait de l'argent, on renflouait le déficit, enfin, etc. C'était pas très visible. Et c'est en 67 que le problème vraiment explose. Pourquoi ? Ben parce que le déficit grandit. On ne s'est jamais attaqué réellement au déficit. En 67, le déficit explose et je crois que c'était Pompidou qui était à Matignon, donc a fait par ordonnance cette fameuse réforme de 67, qui est une réforme importante, complexe, dans laquelle il y a des choses intéressantes, me semble-t-il, mais qui, là encore, reprend un texte du patronat de 61. Le patronat demandait depuis longtemps la séparation des risques et le paritarisme. Bon. Et la loi de 67, la réforme de 67 le donne. Pour moi, cette réforme de 67 est le signe... Alors, c'est à partir de 67, je vais le dire comme ça. Elle signe l'entrée, effectivement, du raisonnement gestionnaire au détriment d'une réflexion sur les finalités politiques de l'institution. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'à partir de 67, on ne débat plus de la place de la sécurité sociale dans la société, mais de la place de la sécurité sociale dans l'économie. Et c'est à partir de ce moment-là, les années 60 sont à ce niveau-là extraordinaire, que la critique de l'État social, la critique de la protection sociale est faite au nom de la compétitivité. Bon, alors là, je vous renvoie à tout. Et puis, c'est le retour du néolibéralisme avec en sociologie, je peux en parler parce que c'est ma discipline, hein, tout ce discours sur modernisons, fin de la société bloquée, que la société civile se prenne en charge. L'État n'est pas la solution, mais le problème, ça c'était l'Américain qui le disait, mais je pense qu'on n'était pas très loin de dire ça dans les années 60. Voilà. Et à partir de là, il me semble que ce qui apparaît à tous les gouvernements, c'est que la seule voie possible, ça sera des politiques restrictives. Et que ce soit dans le domaine de la santé, avec les franchises, les diminutions de remboursement, etc. Vous savez qu'à l'heure actuelle, pour les soins courants, les économistes de la santé ont dit qu'on était à 50% à peu près. En revanche, les maladies chroniques de longue durée sont, elles, vous le savez, toujours bien prises en charge. Donc, pour les retraites, c'est pareil, diminution, etc. Bon, le problème de ces politiques restrictives, il y en a deux problèmes. C'est que d'une part, elles n'ont jamais réglé le problème. Enfin, je veux dire, elles ne se sont jamais attaquées à la source. Et que d'autre part, elles sont source de nouvelles inégalités. Parce que si vous avez un statut, que vous ayez un salaire correct, etc., et on ne peut pas vous jeter la pierre, vous irez prendre des complémentaires privés par capitalisation qui vont venir compenser la perte des remboursements de l'assurance collective. C'est évident. Et ceux qui ne peuvent même pas se payer une complémentaire, de fait, à l'heure actuelle, n'ont pas accès aux soins. Je crois qu'il faut être clair à l'heure actuelle. Voilà. Et donc, on se trouve dans une situation à l'heure actuelle où non seulement cette institution du cœur de la démocratie n'a pas vraiment lutté contre les inégalités, n'a pas redistribué, du moins tel qu'on on l'envisageait à l'époque. Mais voilà qu'à l'heure actuelle, on est dans un système de protection qui, je crois, est en train de créer de nouvelles inégalités. Hein, c'est ça. Alors, pour terminer, je voudrais terminer sur un point qui me tient beaucoup à cœur, ça c'est peut-être parce que je suis prof, que ça m'a des formations professionnelles, mais aussi parce que c'était un élément essentiel de 45, c'était le fait que la sécurité sociale a été pensée comme un espace démocratique et que la gestion aux intéressés, vous l'avez dit tout à l'heure, devait absolument être un lieu d'éducation à la solidarité de la société. Et la ROC, donc, a toujours mis l'accent sur cette éducation à la solidarité. Il disait, si on n'éduque pas, et dès 60, il dit ça, si on continue comme ça, si on n'éduque pas la population, si on ne lui explique pas ce qu'est la sécurité sociale, si on n'explique pas ce qu'est cette solidarité qui nous relie tous et dont tous nous avons besoin, etc., on ira bientôt à un guichet de sécurité sociale comme on va à un guichet de banque ou d'assurance privée chercher retour sur investissement. Bien. Et très très vite, malheureusement, cette éducation à la solidarité n'a pas été faite. Et en 85, la ROC à Toulouse, pour le 40e anniversaire, a fait un discours, je vous lis une citation, il disait « En période de crise, en 85, l'on pense d'abord à soi. Il y a renforcement des égoïsmes, il y a moins de sens de la solidarité. » C'est ce qui explique dans une certaine mesure le succès de certaines idées aujourd'hui répandues par certains, d'après lesquelles il faudrait revenir à des systèmes plus libres, où chacun aurait le choix de s'assurer ou de ne pas s'assurer, au moins au-dessus d'une certaine limite. C'est le règne du chacun pour soi, c'est la négation de la solidarité nationale, c'est la négation de la solidarité telle que nous l'avions conçue en 1946. Alors, vous voyez, dès 1987. Et je crains, et vous devez connaître cette enquête, que la dernière enquête du Crédoc, qui a été publiée en septembre 14 et qui a fait énormément de bruit sur les conditions de vie et aspiration, qui annuellement essaye de mesurer les inflexions du corps social français, eh bien, j'ai peur que cette dernière enquête ne confirme la lucidité que Pierre Larocque a manifestée il y a plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce que cette enquête souligne que la solidarité envers les plus démunis n'apparaît plus véritablement comme une idée fédératrice de la société française. Et je voudrais vous donner juste quelques chiffres. C'est une étude qui montre que 77% de la société française, alors que l'année dernière ils étaient 48, je crois, ou il y a deux ans, pensent que les gens qui sont dans une situation délicate de pauvreté, chômage, etc., sont en grande partie responsables de leur situation. Que les prestations sociales sont trop importantes et les fonds restés préférés, les prestations sociales au travail, enfin, etc. etc. Donc, vraiment, moi j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que ce que je vois se dessiner dans notre société, c'est parallèlement une sorte d'effritement du consentement à l'impôt et du recul du consentement à la solidarité. J'ai l'impression que les deux vont de pair, et sans vouloir finir sur une note exagérément pessimiste, je crains que nous allions vers une forme de désolidarisation, et c'est pour ça, en tout cas en ce qui me concerne, que je pense que nous avons à nouveau intérêt à débattre et devoir, pas seulement intérêt, mais un devoir à débattre à nouveau de la place de la sécurité sociale dans la société et à en refaire une institution de la démocratie qui serait enfin capable de rendre effectifs nos droits et nos droits de l'homme et notre liberté. Voilà, je vous remercie.